On s'interroge sur Pâques et sa signification de nos jours ce midi à la Tribune, qu'on débute avec notre historienne en résidence, Catherine Objoie. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Pâques fête la résurrection du Christ, revenu à la vie 3 jours après sa mort par crucifixion au mont de Golgotha.
C'est ça, exactement. C'est la fête la plus importante pour les catholiques. Partout où il y a des chrétiens, c'est la fête la plus importante parce que c'est à ce moment-là que le Christ est ressuscité et puis monté au ciel. Et il y a quand même des traditions qui sont assez communes à beaucoup de pays. L'eau de Pâques, par exemple, les œufs, symbole de fécondité, qui sont devenus petit à petit des œufs au chocolat, mais qui au début étaient des vrais œufs, qui étaient peints. Mais tout ça, c'est en fait, comme c'est beaucoup de fêtes de la chrétienté, elles ont été récupérées, si je puis dire, de l'époque païenne, de l'époque de l'Antiquité. Donc déjà dans l'Antiquité, les gens fêtaient l'arrivée du printemps avec les œufs, justement, avec symbole de fécondité. Alors voilà, un petit peu l'histoire de Pâques.
Avant de manger du chocolat à Pâques, il fallait se priver pendant le carême, 40 jours, se priver en particulier le mercredi des cendres, début du carême, et le vendredi saint, alors qu'il n'était surtout pas question de manger de viande.
Exactement. C'est pour ça qu'on dit que il y a une explication qui dit que pendant le carême, on ne pouvait pas manger d'œufs, donc on gardait les œufs. Donc quand c'était la fin du carême, là on pouvait manger des œufs. Donc on a commencé. C'est une des explications. Et on disait aussi que les cloches qui avaient arrêté de sonner à partir du jeudi saint, quand Jésus meurt, donc sur la croix, elles recommencent à carillonner le dimanche de Pâques quand il est ressuscité. Et on disait, enfin moi quand j'étais petite, on disait que les cloches de Pâques amenaient les œufs. Ça, c'était en France, mais je sais qu'on le dit dans plusieurs pays, amener des œufs de Rome, si tu veux, parce qu'elles amenaient et elles dispersaient les œufs un peu partout, d'où l'idée de la chasse aux œufs. Voilà.
Oui, j'allais justement te demander, c'est drôle que tu me parles de ça, s'il est arrivé à maman ou grand-maman, Catherine, d'organiser des chasses aux œufs de Pâques.
Oui, chaque année, je le fais. Des fois, je peux pas le faire à l'extérieur parce que c'est pas assez beau. Ça dépend de l'époque ou pas que ça tient. Fait que je le fais dans la maison. Mais sinon, oui. Puis quand j'étais petite aussi, on le faisait. Puis c'est vraiment une joie de Pâques, là.
Est-ce que le caractère sacré de la fête s'est beaucoup perdu?
Je pense que oui, mais on connaît toute l'évolution des Québécois vis-à-vis de l'Église depuis la Révolution tranquille. C'est sûr que toutes ces fêtes-là, le sens religieux est peut-être a diminué au fil des années. On a gardé, c'est comme à Noël, les cadeaux, mais d'abord c'est la naissance du Christ. Pâques, c'est le jambon de Pâques, on se réunit, on s'offre du chocolat, mais je ne sais pas dans quelle proportion les Québécois se rappellent que Oups aussi, c'est la résurrection du Christ.
Oui, les jeunes enfants, est-ce qu'ils savent ça de nos jours? Quand on était petit, on nous l'apprenait, mais aujourd'hui, je serais curieux d'interroger les petits-enfants là, sur la signification de Pâques,
ouais, non,
son sens profond, là.
Je crois qu'ils savent pas bien. Peut-être qu'ils savent un petit peu, mais beaucoup moins que nous, quand on était petits, là. On avait vraiment... C'était d'abord une fête religieuse. C'est aujourd'hui, ça a changé, je pense, oui.
Est-ce que ça te chagrine?
Mais...
Tu es partagé, là.
Tant, sans parler de religion, ni personnellement de foi ou non, je trouve que c'est important... Parce qu'on voit qu'il y a c'est une manière tout à fait personnelle, il y a un vide qui s'est créé, justement, qui est parfois rempli par ce vide-là, par d'autres choses, parce qu'on a besoin de croire, d'avoir un sens à la vie. Hein. Puis, et sans là, la religion, bon, il faut distinguer, je pense, l'Église, qui est humaine, avec tous ses défauts, de la foi. C'est parce que l'Église, au Québec, il y a eu des problème. Encore aujourd'hui, là, il y a une profonde désaffection hein, des Québécois par rapport à l'Église, mais la foi, c'est plus difficilement mesurable dans une population. Voilà ce que je pourrais dire.
Merci beaucoup, Catherine Objoie, et je vous souhaite de joyeuses Pâques.
Ben, merci, à toi aussi.
Merci, Catherine. Lionel Aymard est curé de la paroisse Saint-Michel, ce qui le conduit à exercer son ministère à Yamaska, Saint-Gérard et Saint-David. Bonjour, monsieur le curé.
Bonjour, monsieur Sylvain.
Oui, alors, avant d'être ordonné prêtre, vous avez, si je suis bien renseigné, enseigné la catéchèse. Ça nous reporte au début des années 70. Est-ce que les jeunes savaient à cette époque ce qu'était Pâques? Et le savent-ils aujourd'hui?
Ben moi, je peux dire une chose. Quand j'étais enseignant, c'était en 71-73, déjà, je disais à mes confrères que j'enseignais à des étudiants qui voulaient rien savoir de la religion. Mais Pâques, c'était encore à ce moment-là célébré. Tu sais, moi, je me souviens, là, les églises de Drummondville et tout ça là, se remplissaient. Donc, ils avaient une idée, tu sais.
Alors, ils avaient une idée, vos élèves, dans les années 70, au tout début des années 70, bien que pas très ouverts à la religion. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'ils le savent, eux, ce que c'est Pâques, ce que ça signifie Pâques?
Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Là, s'ils savent le mot Pâques, c'est en relation avec les œufs de Pâques et puis tout ça. Mais de là à faire des liens, là, ça me surprendrait.
Vous êtes fait prêtre à la fin de l'été 73, toujours si je suis bien renseigné. La relation des Québécois avec Pâques n'est plus celle d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, nos églises, elles ne vont pas faire dimanche là, le plein de fidèles, comme c'était sans doute encore le cas en 73. Est-ce que vous êtes nostalgique, M. Aymard, de ces années-là?
Moi, je peux te dire une chose, Sylvain, c'est que quand j'ai été ordonné prêtre en 73, la descente commençait et elle s'est poursuivie, ne s'est pas arrêtée, ne s'arrête pas actuellement. Alors donc, je ne peux pas dire que je suis nostalgique de cette époque-là, parce que déjà, ça prenait, je dirais pas que ça prenait le bord, là, mais tu sais...
La ferveur s'effritait.
Ah oui. Moi, je te donne un exemple très, très concret. Quoi. Je me souviens très bien que quand j'étais curé à Sainte-Cécile-de-Lévrard, je réussissais à négocier le samedi saint avec les paroissiens s'il y avait une partie de hockey le samedi saint au soir, soit que je faisais la célébration plus tard ou avant, pour qu'ils puissent pas manquer leur partie.
On a crucifié le Christ, il est ressuscité le troisième jour. Croyez-vous que l'Église institution, pas particulièrement vivante, disons ça comme ça, va connaître un jour ce sort de la résurrection?
Là, tu me poses une bonne question. C'est-à-dire qu'il va en avoir une, mais pas comme on le pense. Ça, c'est sûr. De résurrection, au contraire, là, ça va aller encore beaucoup plus bas. Là, ça, je suis sûr. On n'est pas rendu au fond du panier. Et puis, quand tu parles de résurrection, ça va être de quelque chose de totalement différent. Moi, je dirais beaucoup plus intériorisé que extériorisé.
L'Église demande à ses fidèles de faire maigre vendredi saint, de s'abstenir d'aliments riches comme la viande en mémoire du sacrifice de Jésus. Pensez-vous que bien du monde obéit encore à cette règle-là?
Le problème, c'est qu'ils ne savent même pas que ça existe, cette règle-là.
À quoi vous attribuez cette baisse de ferveur, cette baisse de connaissance à propos des enseignements de l'Église, de la vie de Jésus?
Moi, je dirais ceci, qu'au fond, là, j'étais encore... j'étais pas ordonné prêtre à ce moment-là. Et je me souviens, là, quand est apparue la lettre encyclique de Paul VI sur Humanae Vitae, ce qu'on appelle la lettre sur la contraception, puis tout ça, là, à ce moment-là, il y a eu une rupture. Vraiment, là, une très grosse rupture. Et puis, à partir de ce moment-là, là, ça s'est visibilisé, cette rupture-là. Avant ça, là, tu sais, en somme, les gens ont pris leur distance vis-à-vis de l'Église. On dit que dans les années 30-40, l'Église a perdu le monde ouvrier. Dans les années 70, l'Église a perdu le monde féminin.
Monsieur l'abbé Aymar, merci de nous avoir accordé cet entretien et de joyeuses Pâques.
Pareillement pour vous. Bye.
Denis Marion, notre politicologue ou notre politologue en résidence, a passé plus jeune, c'est-à-dire il y a peu d'années, plusieurs semaines saintes à Jérusalem. Nous le rejoignons à Massuville. Bonjour Denis.
Bonjour Sylvain.
Alors, écoute, il n'y a pas de meilleur endroit pour vivre la Semaine Sainte que la Terre Sainte où tout s'est produit. Racontez-moi, partagez-moi vos souvenirs. Est-ce que ces Semaines Saintes en Terre Sainte, elles vous ont marqué?
Ben, en fait, d'abord, j'habitais à l'université, j'habitais dans les résidences de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est juste à côté du Mont des Oliviers. Donc, aussi bizarre que ça puisse sembler, il y a des mots dans la vie là, qui font partie du quotidien. Alors, le Mont des Oliviers, je l'ai vu tous les jours. La Via Dolorosa, qui est le parcours du chemin de croix, faisait partie des lieux où j'allais magasiner. Et donc, ça fait partie de la vie. Et évidemment, dans un univers qui est Jérusalem, qui est la ville autant... pour la religion juive, pour les musulmans que pour les chrétiens. Ça fait partie du quotidien, puis c'est très étrange quand on y pense, effectivement, des années plus tard.
Les motivations spirituelles et religieuses, elles se sont beaucoup perdues, et pas qu'elles, les traditions séculières aussi. Est-ce que vous vivez bien ça? Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que ça vous chagrine?
Non. Sérieusement, non. D'abord parce que je pense que les traditions, contrairement à ce qu'on pense souvent, ce sont des choses qui évoluent, ce sont des choses qui changent, et donc les traditions, dans une certaine période de nos vies, deviennent des souvenirs. Par exemple, pour Pâques, pour moi, là, le souvenir de Pâques, puis ceux de ma génération vont comprendre, on s'habillait propre, puis on allait voir nos grands-mères. Moi, c'est mon souvenir de Pâques, des belles journées ensoleillées où on était contents, c'était le printemps, etc. C'est sûr qu'il y avait la messe de Pâques. Le cierge pascal m'a toujours bien impressionné quand j'étais petit. Mais ce sont des choses qui sont plus des souvenirs aujourd'hui. Puis, je suis pas sûr que c'était non plus très spirituellement, comment je pourrais dire ça, motivé. Je pense que ça faisait partie des choses qu'on faisait à ce moment-là et qu'on fait beaucoup moins, sinon plus du tout aujourd'hui. On est plus dans les journées de congé que dans les journées de réflexion parce que Pâques, officiellement, ça demeure la fête la plus importante, l'événement le plus important du christianisme dans nos traditions catholiques, là. Mais ce sont des choses qui ont disparu du quotidien des gens. Sérieusement, là, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent au mystère de Pâques quand on va arriver là.
Justement, vous me faites penser à la magnifique chanson de Charles Trenet, « Que reste-t-il de nos amours? » Que reste-t-il de Pâques, Denis Marion? Est-ce qu'il y a encore des enfants qui s'habillent propres aujourd'hui pour aller voir grand-maman?
Je sais pas, mais il y a une chose qui est restée, c'est le lien avec le chocolat qui a rien à voir avec quoi que ce soit de la résurrection du Christ. On s'entend là-dessus. Tu sais, Pâques c'est devenu le Père Noël. Pas Pâques, je m'excuse. Noël c'est devenu le Père Noël, puis Pâques c'est devenu le chocolat quelque part. Là, comment je pourrais dire ça? C'était un moment de l'année. Pâques, c'était un moment de l'année. Aujourd'hui, c'est une période de congé. C'est le premier long congé qu'on aura depuis Noël officiellement. Là, évidemment, il y a toujours la semaine de relâche qui est devenue maintenant un autre un autre moment, qui est entré dans nos traditions, je dirais, Sylvain. Donc, il y a plein de choses en évolution, mais je pense pas qu'il y a tant de monde que ça qui vont vivre pas comme nous on le vivait quand on était très jeune. Là.
L'Église...
Les années 70, en ce qui me concerne.
Oui, c'est ça. L'Église a à sa tête un pape plutôt moderne, un pape qui se commet, qui se commet pour les exclus, y compris les exclus de sa propre Église d'ailleurs, les oubliés, les victimes de la guerre, un pape qui s'excuse. Est-ce que vous croyez que ça pourrait réconcilier avec l'Église des croyants qui s'en étaient éloignés?
Non.
Ah non?
Très sincèrement, je pense que le pape est avant tout un personnage politique et pas un personnage religieux. De nos jours, là, je veux dire, aujourd'hui, là, il fait partie des personnages importants de la planète, bien sûr, là, mais je ne crois pas que ce soit... Je pense que comment je pourrais dire ça? Il y a une évolution dans notre monde donc tout ce qui touche à la foi. Hein, la foi, c'est croire quelque chose, là, quelque chose qui est important, qui donne un sens à la vie, etc. Je pense pas que ce qu'on a vécu au cours des dernières années a beaucoup raffermi ce sentiment-là. Vous savez, on dit souvent que les Québécois ont développé un sentiment de buffet chinois quand il s'agit de la foi. C'est-à-dire, vous prenez ce qui vous tente dans ce qui vous est offert, et ça va du christianisme traditionnel, de l'Église catholique dans ce qu'elle est dans son essence, jusqu'à la réincarnation, là, ou donc auxquelles d'autres peuvent croire. Donc, à travers tout ça, il n'y a pas nécessairement d'identité attaché à une religion, et c'est probablement ce qui explique la désertion des églises quelque part, là. Ouais. Je suis pas un spécialiste, bien sûr. Là.
Denis, merci beaucoup de nous avoir accordé ce trop bref entretien. Je vous souhaite de joyeuses Pâques.
Merci.
Merci. Bye bye. Jocelyne Bibeau, artiste, danseuse, chorégraphe, prof d'éthique et bien d'autres choses. Bonjour, Jocelyne.
Bonjour, Sylvain.
Alors, je vous vois sur Facebook saluer le retour des beaux jours. Alors, je pourrais ajouter poétesse à la description que je viens de faire de vous. Je vais vous citer pour en donner la preuve à nos auditeurs. Le tapis de neige se rétrécit, les arbres rêvent à leurs feuilles, la terre libérée se dénude et toi, tu allumes cette naissance, cette vie, ce monde. Écoutez, qu'est-ce sinon que la résurrection? La question ne fait pas partie du texte, je vous la pose, Jocelyne. Qu'est-ce que vous décrivez? C'est un genre de résurrection?
Oui, oui, oui. Ben, le texte, dans le fond, c'est de dire que la vie s'installe, elle se développe, et que selon les saisons, elle s'adapte, et puis elle se ressource de tous ses passages. Puis là, le printemps arrive et puis tout est prêt, tout est mûri et elle explose. Et puis, je pense que les humains, c'est un peu ça, la nature qu'elle nous apprend. Et c'est pour ça que j'aime tellement vivre en nature et que j'aime beaucoup observer aussi et écrire des textes que j'espère. Et puis, je suis très fascinée que tu me dises que tu l'as lu parce que je veux que les gens aussi, tu sais, comme moi, s'arrêtent un petit peu au mot puis se disent « waouh, ça fait du bien ». Puis, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme résurrection, dans le fond? Comment je reviens au printemps? Comment je suis? Quelles sont les choses sur lesquelles j'aimerais peut-être plus m'épanouir ou des choses que je voudrais peut-être laisser de côté? Tu sais, je pense que Pâques, c'est ça aussi un peu la résurrection. On a ici un individu qui a comme un message à livrer, qui veut que les Juifs soient libres, qui souhaite que les gens s'aiment les uns les autres, et puis qui a un vécu finalement qui est pas évident. Mais que sa mort nous apprend que finalement le message qu'il veut et qu'il laisse, c'est qu'on peut ressusciter dans nos vies. Et c'est pas seulement une question physique ou biologique, mais dans notre être, dans notre passage ici, un petit peu tous les jours, revenir sur ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut pour soi, pour les autres.
Dans votre carrière prolifique là, de chorégraphe et de danseuse, est-ce que vous avez dansé dans les églises, dansé Pâques qu'on va célébrer, par exemple?
Oui, je ne sais pas si j'ai dansé de la journée de Pâques comme telle, mais j'ai souvent fait des créations dans les églises parce que, premièrement, c'est un lieu absolument magnifique, qui a une énergie particulière, très pacifique, et les gens sont à l'écoute, les gens ont une sensibilité plus grande aussi. Et puis, si on est dans l'idée, finalement, l'esprit de ce qui est livré dans les mots, dans un texte ou par la personne en place qui est là, qui fait l'office, moi, je pense que ça concourt encore plus à nous ramener à soi, puis à intégrer, finalement, les messages qu'on reçoit autour de nous, les reprendre dans notre vie tous les jours, dans notre quotidien, dans notre réalité de 2022.
Pâques, est-ce que Pâques signifie encore quelque chose aujourd'hui pour la majorité des Québécois, ou est-ce que ce n'est plus qu'un congé férié sans signification plus profonde? Que ça?
Ben, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'en général, et je pense que c'est quand même bien aussi, ça va demeurer une fête de famille. On va être dans le bonheur avec les enfants, on va donner des cocos, il va y avoir, en tout cas, je le souhaite, parce que peut-être que toutes les familles ne pourront pas se réunir non plus à cause des réalités qui sont celles qu'on a dans le moment. Mais je pense que pour les enfants, ça va rester encore une fête. Et je pense que c'est ce moment-là familial là, qui est le plus précieux en dehors de son historique. Moi, je pense que oui, ça va continuer. Maintenant, la pensée que moi, je peux en tout cas réfléchir un peu en lien avec Pâques cette année, c'est certain que j'ai le temps de penser, j'ai le temps d'écrire, j'ai le temps de mûrir, j'ai le temps de créer. Et ce mot-là, tout à coup, fait vraiment un grand sens. Parce que oui, on doit ressusciter, on doit pousser en avant, on doit être solidaire, on doit s'entraider. Et avec tous les événements, il faut aussi que mentalement, on demeure avec des pensées positive, forte, convaincue qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire notre part dans tout ce qui arrive dans le moment. Alors, moi, je souhaite cette résurrection-là perpétuelle aux gens parce que les moments sont quand même difficiles et puis les gens continuent à se tenir debout, hein, les gens continuent à enseigner dans les hôpitaux. Je suis émerveillée du courage des gens là avec tout ce qu'on a passé puis qu'on vit encore un petit peu avec notre inquiétude mondiale. Mais on est fort, on est capable, on a le cœur au ventre et puis on a confiance à ce qu'on est. Puis comment je pourrais dire ça, à cette entraide et cette force-là commune et collective là, qu'on puisse donner.
Jocelyne Bibeau, ça nous fait toujours du bien de vous parler. Merci, merci beaucoup Jocelyne Bibeau.
Merci, t'es gentil, Sylvain.
Après la pause, Sœur Angèle.